taken too easily. Muscles uncoiling from my bones, unwrap me like a gift. You've been desperately wishing for cartilaginous flower. Can you see the light inside? Do you remember when we used to be wild and free? I'm a shapeshifter. I can become anything I want.
Bonjour, donc Amina Kadeli, de ton vrai nom entre guillemets, Flesh Love. Ton premier album est paru le 1er mars, Naga partie 1. Moi j'en suis hyper fan, vraiment je l'aime énormément. Moi je t'ai surtout découvert d'abord sur tes positions sur le féminisme, et je vais beaucoup te parler de ça, je te préviens, parce que pour moi c'est important. D'abord on va revenir sur ton parcours. Dans ta conférence TEDx, tu racontes que quand t'étais petite, tu voulais être avocate et que finalement tu es chanteuse. Et je voulais savoir du coup, il s'est passé quoi entre les deux? Est-ce que c'est vraiment voilà, cet intérêt pour les mots, cette passion pour les mots qui t'a plu avant tout dans la musique et qui du coup t'a orienté vers l'un ou vers l'autre? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix en fait?
En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait une puissance dans les mots et une vibration, et j'avais l'impression, tu vois, moi les études très longues, très périlleuses, c'était pas spécialement ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être dans la vie et dans le concret assez vite, même si je me suis quand même retrouvée à l'université, tu vois. Et pour moi la musique, je me rends compte que tu sais, tout le monde a son espèce de BO de sa vie, et il y a des morceaux qui peuvent vraiment changer ta vie, t'accompagner, et j'aimais bien cette idée d'être une espèce d'accompagnatrice fantôme dans la vie des gens. Tu vois, t'es présente et en même temps les gens te connaissent pas. Je trouve que c'est super beau et ça permet de rencontrer du coup des gens dans le monde entier, d'être là, tu vois, je suis à Rouen, jouer ce soir, non c'est assez fou, surtout que j'adore voyager, donc c'était quand même un moyen de mettre les deux ensemble, en commun.
Du coup, justement ce que je te dis, moi je t'ai connue d'abord sur le féminisme, est-ce que ça t'a permis aussi d'avoir une voix dans ce domaine là en gros ma question c'est, est-ce que parce que t'es musicienne et chanteuse et que du coup t'as une autorité entre guillemets, ça te permet de donner une voix et parler féminisme, ou c'est l'inverse qui a motivé, est-ce que c'est l'un ou l'autre qui t'a motivé?
De toute façon tout est lié, tu vois. C'est après, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à parler, sachant que j'avais pas trop de musique qui était sortie, les gens m'ont dit tu vas voir, ça va tuer ta carrière, le fait de parler de ton expérience passée, le fait et je me suis dit bon, je m'en fiche, j'y vais. Et en fait les deux, tu sais, c'est un vase communicant, les deux m'inspirent. Genre, vu que ça me touche profondément dans ma vie de tous les jours, je me voyais pas ne pas l'incorporer dans mon projet. C'est profondément qui je suis et ce en quoi je crois. Tu vois, je lis tout le temps des livres. Là, j'ai acheté un livre de Grayson Perry, je sais pas si tu connais, qui s'appelle The Decent Man, sur l'hypermasculinité, la déconstruction. C'est un artiste qui s'habille aussi en tant que femme et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une thématique, tu sais, qui me passionnera toute ma vie, je pense. Et du coup, voilà, ça fera toujours partie de ce que je fais.
Et justement, t'as un son qui parle de ça, de masculinité toxique. Tu parles beaucoup de l'univers et de toi dans tes titres, justement, dans tes morceaux. Et moi, c'est des mots qui résonnent beaucoup. C'était une volonté de trouver des mots qui puissent parler à tout le monde. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi et du coup, t'en parles et ça te les gens? Enfin voilà, est-ce que c'est de l'intime ou est-ce que c'est vraiment une volonté de toucher les gens sur ce domaine-là?
Et ben, c'est pas du tout réfléchi. C'est-à-dire que dans tous mes morceaux, tu prends Moussouna, il n'y a pas de refrain, il n'y a aucun morceau qui rime. Seulement aucun. Parce que souvent, c'est genre juste, je commence à écrire et ce texte descend et je me dis, bon, des fois je le comprends sur le moment, des fois je le comprends pas. Moussouna, il s'est révélé à moi. Tu sais, c'est comme une espèce de parabole comme ça. Du coup, je me suis pas dit, ah oui, il faut avoir un espèce de lexique, tu sais, universel qui va toucher les gens. Non. Et surtout que quand j'avais écrit Moussouna, c'était quoi? C'était en 2000. Il est sorti en 2017. En France ou même en Suisse, ou bon, après, j'ai envie de voyager dans le monde entier, mais il n'y avait pas spécialement ce truc de mettre de la pop avec de, tu vois, avec de la spiritualité. Donc c'était pas du tout un plan de commercial et tout. Non, c'était juste genre, ça me touche profondément, donc j'y vais et puis ça rentrera sûrement en vibration avec quelques personnes du coup.
Stars shining all over my body. I'm a work of art. Stars shining all over my body. I'm my own jewelry. I'm my own jewelry. You can see me from far. You can see me from far. You can see me from far. Some think I'm a planet, 'cause they see me glowing in the dark. Some think I'm an old.
Est-ce que tu penses être politique? Est-ce que c'est une catégorie dans laquelle t'inscrirais, parce que du coup ton art est politique?
Tu sais, Nina Simone, elle disait que les artistes c'était des témoins d'une époque. Quelle que soit ta prise de position, pour moi c'est politique. Le fait d'être dans l'espace public en tant que femme, c'est politique. Le fait d'interagir, le fait de monter sur scène et dire voilà, ça c'est mon travail, c'est politique. Du coup, une existence non politique, c'est, ça n'existe, je vois pas, tu vois, à quel point... C'est marrant parce que tu sais, il y a des mots comme ça qui font peur. Il y a même pas mal d'artistes féminines, quand tu leur dis « Est-ce que vous êtes féministe ?» Elles sont « Ah non, 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 moi je suis pas féministe. » Parce qu'elles ont peur que ça les enferme quelque part et que du coup ça mette une distance entre elles et leur public. Moi je suis profondément féministe parce que je pense que chaque être humain devrait l'être. Et je suis profondément politique parce que j'ai aussi envie que les choses s'améliorent. Donc ça demande un certain engagement au quotidien. Il y a cette phrase que j'adore qui dit « On peut pas être une étoile au ciel si on n'est pas une lampe à la maison ». Donc tu vois, il y a mon engagement politique dans ma musique, mais il y a aussi mon engagement politique dans ma vie personnelle d'être humain, tu vois, et de comment je parle aux gens, je rentre en connexion et tout ça. Ça c'est politique aussi.
Est-ce que le fait d'avoir mis le mot féministe ouvertement dans l'espace public, est-ce que tu penses que ça a ralenti pour le coup ta carrière ? Est-ce que ça a été un blocage ? Est-ce que des fois tu le ressens ?
En Suisse, qui est un pays beaucoup plus conventionnel et d'où je viens, et où il y a eu Calvin à Genève qui a fait des ravages avec le protestantisme extrémiste, oui je le sens. Je sais qu'il y a des journalistes qui ne veulent pas me recevoir. Ils ne veulent pas me recevoir parce qu'ils savent très bien. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils savent déjà qu'ils n'ont pas toujours été très clean dans leur dans ce qu'ils ont fait. Donc ils ont un espèce d'acquis de conscience. Et ils savent que je vais les remettre à leur place. Autant t'as des gens qui vont être là, j'ai envie de la rencontrer. Mais du coup, ceux qui vont me rencontrer, c'est ceux qui auront vraiment écouté ce que je fais. Donc c'est plus intéressant, tu vois. Ça me posera des vraies questions comme toi. Ceux qui ne sont pas sensibles à ça, j'ai pas envie de les rencontrer, j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais oui, oui, en Suisse, je sais que ça m'a. Il y a des gens qui ne veulent pas me rencontrer pour ça. J'ai pas très envie de les rencontrer non plus. Non, non.
Dans une interview de Manifesto, donc 21, je sais pas si ça se dit en anglais, tu dis, je cite, après attention, c'est vite tentant de devenir spécialiste de tout, d'imaginer que tu peux parler pour tout le monde quand on te pose des questions. Et donc avec ton statut, c'est quand même un risque, je pense, enfin genre forcément quand on est dans l'espace public, etc. Est-ce que justement c'est pas trop compliqué de tomber dans ce risque-là ? Deuxième question qui va avec, c'est par exemple, je te parle là de l'interview et ça fait 6 minutes exactement qu'on parle et je parle surtout de ton féminisme plus que de ta musique. Est-ce que ça t'agace pas d'être catégorisée comme ça justement ?
Pour répondre à ta question, je me la répète tout le temps cette phrase. Et puis des fois quand on me demande des conseils sur comment les femmes doivent se comporter, ça, je suis là déjà, je suis pas Jésus et même Jésus déjà on s'occupe de soi-même. Je peux juste parler de mon expérience personnelle et j'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant parce que chacune fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et son est la somme de ses expériences. Et non, parce que pour moi toutes les portes mènent à ma musique. Tu sais, moi mon envie c'est de faire quelque chose de pluridisciplinaire. Donc autant le fait d'avoir quelque chose d'engagé, de faire des TEDx, ça m'intéresse. Autant le fait de peut-être faire des performances de danse un jour, ça m'intéresse. Autant peut-être travailler autour de l'herboristerie, ça m'intéresse. Donc moi il y a rien qui, tu vois. Je pense que toutes les portes peuvent mener partout et puis ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée pour venir me rencontrer, écouter ma musique. Non, mais franchement, moi, je crois pas. Je crois que c'est très français. Tu sais, les Américains sont beaucoup plus, genre, touche à tout, tu sais, dans ce truc. Non, non, franchement, non. Puis, j'ai l'impression que, tu sais, t'as des espèces de stratégies. Moi, j'en ai aucune. Alors, en fait, je préfère être comme je suis. Et puis, voilà, parce que sinon, tu te fatigues trop. T'es dans une espèce de contrôle de ce que tu dois donner, de ce que tu... Non, mais tu deviens schizophrène. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent schizophrènes. Donc, moi, il y a personne qui me dit, tu dois dire ça et pas dire ça. Dieu merci, parce que c'est un cauchemar pour cette personne-là et pour moi.
Pareil, dans la même interview, tu parles du fait que t'as envie que ta musique ait une approche pédagogique. Et du coup, il y a clairement une dimension spirituelle et féministe dans ta musique, dans tes clips, dans ton personnage, si je peux l'appeler comme ça, on sait pas trop. Et c'est ces deux messages-là que t'as envie de parler vraiment le plus, le féminisme et la spiritualité, c'est ce qui te constitue principalement, en fait.
Ouh, si tu savais tout ce qui me constitue. Non, mais dans le sens où tout m'intéresse. Et quand je disais pédagogique, c'est-à-dire que déjà, moi, j'aime beaucoup apprendre des choses. Par exemple, Festa Tocandira, j'ai une fascination donc, sur ce rite initiatique, mais aussi sur les fourmis au même moment. Donc, je lisais des livres sur les fourmis et donc j'avais envie de parler d'un microbe qui s'appelle Dicrocolium dendriticum qui attaque le cerveau des fourmis. Bref, c'est tout un délire absolument incroyable, le monde des parasites. Et du coup, quand c'est pédagogique, c'est aussi pour moi. Et je trouve ça cool que les gens puissent se dire, mais c'est quoi ce truc chercher ? Oh purée, ça donne sur les fourmis. Tu vois, j'aime bien cette espèce de toile immense et spiritualité féminine. Non, mais il y a tellement de choses. La science me passionne. J'adore Neri Oxman, qui est une grande biologiste et designeuse. Écrit sur Kurt Gödel, qui était un grand logicien mathématicien. Franchement, ça se trouve, demain, je vais faire un album sur, je sais pas moi, sur les plantes. Franchement, j'adore l'éthologie. L'éthologie me passionne. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui va revenir aussi sur la deuxième partie de...
Justement, c'est le lien ce que j'allais dire. T'as fait des études sur le genre, sur le post-colonialisme, l'éthologie justement, et t'as travaillé sur la pornographie. Est-ce que c'est tes études et donc ce croisement de tout ça qui t'a permis de te conscientiser ? Parce que t'as quand même un discours très, très minutieux. Tu fais super attention, j'ai l'impression, enfin, pas oui, forcément attention, c'est peut-être naturel, mais attention à ce que tu dis, à la place que t'as, voilà, à faire attention à ce genre de choses. Et pour moi, je trouve ça, c'est ça qui est fascinant en fait, je trouve ça dingue. Est-ce que c'est ce mélange de ces études-là qui a créé ça ?
Je pense qu'à partir du moment où tu nais femme, il y a toujours plein de choses qui se passent dans ta vie où tu te dis il y a quelque chose de problématique. Moi, c'était très tôt, genre j'habitais dans un village en Suisse. J'avais 6-7 ans, je me faisais siffler sur le chemin de l'école par des messieurs qui avaient l'âge d'être mon père. Ça m'a traumatisée. Ce que j'imaginais, si c'était des mamans qui sifflaient des petits garçons. Je disais, qu'est-ce qui a changé en moi que je comprends pas mais qui génère ça ? Et qu'est-ce qui fait que ces hommes ont le droit de me jeter à la gueule leur désir ? Donc j'ai toujours eu cette conscientisation-là, mais effectivement, toutes ces études, elles te permettent de déconstruire, mais c'est vrai que c'est un immense... Genre, lire du Virginie Despentes, lire du Audrey Lorde, moi, elle m'a... Parce que t'as beau avoir une conscience qu'il faut respecter les différences de tout un chacun, mais c'est encore autre chose de le lire par une femme noire, lesbienne, tu vois. Là, j'ai lu Bell Hooks, que je trouve incroyable. J'avais lu Fatima Mernissi chez les Asma Lambaret, tu vois. Zahra Ali, tout, dans le féminisme plutôt musulman. Je sais pas, tout ça, franchement, je trouve ça fascinant. J'ai Edward Said pour l'orientalisme. Et franchement, moi, ça a changé ma vie, quoi. Vraiment. Non, non. Par contre, t'as une phase, je sais pas si toi tu l'as eu, où t'es à vif. Et tu vois tout ce qui se passe, en fait. Exactement. Et t'es là, waouh, est-ce que je peux revenir de cet état-là? Est-ce que je peux retrouver une espèce de légèreté? Et je trouve qu'il n'y a plus de pas en arrière. Et tu peux plus revenir en arrière. Oui, mais il faut la trouver autrement. Il faut la trouver autrement. Mais légèreté par rapport à ça. Et puis, il faut aussi, moi, quelque chose qui m'a donné beaucoup plus, pas de légèreté, mais qui m'a permis de prendre une dimension différente, c'est tout l'intérêt sur l'hypermasculinité et l'hypervirilité. C'est-à-dire que je suis bien sûr que le patriarcat, dans un premier temps, profite plus aux hommes, mais je pense que ça fait des dommages collatéraux partout. Et les hommes, on parle à tant d'hommes blancs dans certaines positions, il y a plein d'hommes racisés qui n'en profitent pas, plein d'hommes blancs non plus. Et il y a ce dont Bell Hooks parle, de cette douleur silencieuse de tous ces hommes qui vivent pas n'ont pas le droit de vivre dans leurs émotions. Même dans des couples de femmes féministes, avec des femmes féministes, tu vois, où dès qu'un homme tout d'un coup montre une vulnérabilité, les femmes elles ont peur, elles disent mais qu'est-ce qui se passe, tout va s'écrouler. Donc ça c'est très difficile. Je veux pas faire le travail à la place des mecs, hein. Je suis pas en train de les plaindre, mais ça m'offre une espèce d'empathie et une conscientisation des rapports de pouvoir, et c'est assez intéressant parce que du coup les discussions avec les mecs aussi peuvent être assez intéressantes.
Par rapport à tes influences, on parle de Miyazaki, de Khalil Gibran, je sais pas comment ça se dit, Le Petit Prince version Moyen-Orient. Est-ce que ça aussi ça t'a conscientisé? Est-ce que ça influence ta musique aussi?
Mais tout, tu sais, ce que je mange, ce que je vois, peut-être notre discussion, une odeur, tout, tout. Moi je pense que t'as une espèce de canal, donc tout influence ma musique. Miyazaki, oh putain, Miyazaki, en fait Miyazaki, ce que je trouve extrême. Déjà, ce qui est très rare, c'est que la majorité, les héroïnes sont quasiment tout le temps des petites filles. Donc ça, c'est quand même très rare. Et puis, je trouve qu'il a une connexion avec l'enfant intérieur, la spiritualité, l'animisme qui est très très fort. C'est-à-dire que Miyazaki, tu le regardes et il parle à une partie de toi avec laquelle on est peu en connexion, mais qui est tellement consécutive de constitutive de ta personne. Et du coup, ouais, Miyazaki me touche énormément parce qu'il a une forme de poésie. Tu sais, ce regard qu'il porte d'enfant intérieur, d'enfant sur le monde. Je me dis, tiens, le mec, je sais pas, il a plus de quoi, 80 ans, je sais pas. Mais je trouve ça magnifique, en fait. Et Khalil Gibran, c'est un livre qui s'appelle Le Prophète. Oui, ça fait partie de mes livres de chevet, comme La Conférence des Oiseaux, tout ce genre de livres. Mais en fait, moi, tu vois, chaque lecture, ça me... Tu vois ce que je veux dire, ça. On sait tellement peu de choses, en fait. Donc chaque lecture, tu te rends compte que tu en sais, que tu seras jamais assez. Mais bon, t'apprends à chaque lecture à quel point t'es ignorante. Franchement, hein.
Et justement, cet univers voilà, très graphique quand même, est-ce que ça a influencé la façon dont t'imagines tes clips, par exemple? Comment ça influence ta façon de créer, le personnage que tu as, ces choses comme ça?
Quand je compose la musique, j'ai déjà une idée de l'esthétique. Après, j'ai la chance de travailler avec Roberto Greco, qui est un ami de ma grande sœur, ça fait 10 ans que je le connais, avec lequel on travaille tout ensemble. Je viens avec des morceaux, des idées, des machins, lui il me redonne des idées, on travaille ensemble. Que ce soit les clips ou les pochettes. Et moi je suis très fidèle, d'ailleurs Amina en arabe ça veut dire la personne sur laquelle tu peux compter, sur laquelle tu es fidèle. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au pouvoir de la communauté, du lien et tout ça. Donc quand tu peux collaborer avec des gens, c'est dur, hein. C'est deux états de vulnérabilité qui se rencontrent. Il faut qu'il y ait un espace de bienveillance pour que ça opère cette magie-là. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens assez incroyables, mais dans tout en fait.
C'est justement par rapport à la collaboration, donc tu parlais de ça, et par exemple, tu as fait un titre donc, avec Rhône. Et ça va être un peu bizarre comme question, mais est-ce que c'est pas... Quand on fait si attention, qu'on est si minutieuse, comme je disais tout à l'heure, aux mots qu'on utilise, à la façon dont on se positionne, est-ce que c'est pas dur de créer avec quelqu'un justement?
Très bonne question. Rhône, c'est un peu... un accident de la vie, un heureux accident de la vie, parce que j'aime beaucoup son travail. Notamment, tu sais, Alain Damasio, l'écrivain, ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle Bora Vocal. Et Rhône, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avant de collaborer. Et j'ai tout de suite senti son énergie. C'est quelqu'un de hyper généreux, hyper sensible, hyper féministe dans sa façon de collaborer avec l'autre. Mais t'as bien raison, je peux pas travailler avec n'importe qui et je le ferai pas. Après, malheureusement, des fois, tu peux pas tout éplucher sur les gens et tout. Mais tu sais, j'ai aussi tendance à croire que ton énergie, elle attire des gens. Genre, quelqu'un qui est profondément anti tout ce que je défends, il viendra jamais travailler avec moi. Il aura pas envie et tous les deux, ça va pas, tu vois. Ça marchera pas. Donc, c'est vrai que j'ai la chance de collaborer avec des gens qui sont comme dans la. Et même, tu sais, les techniciens, techniciennes, musiciens, musiciennes, parce que j'ai des techniciens et des techniciennes, musiciens et musiciennes, ils sont tous dans cette ouverture-là du cœur, parce que sinon ils pourraient pas venir travailler avec moi, tu vois, ça les embêterait à la fin que je parle de ça. Non mais c'est vrai. Donc je m'entoure de gens qui sont sensibles à ma vibration et moi je suis sensible à la leur. Et tu gagnes tellement de temps et d'énergie. Tu peux changer personne à part toi-même, donc entoure-toi des gens avec lesquels tu... C'est tout de suite, il y a quelque chose qui se passe de joli, tu vois.
Bah merci pour ce très beau conseil pour le mot de la fin. Merci à toi et puis bah très bon concert à Mythos du coup.
Merci beaucoup.
In the middle of your forehead, realize your full potential. What you see is not what is true. Oh no. Oh no, no, no. Can you feel the hours are moving? Can you see the dimension opening? This is where you come from, my love. This is where we all come from. You're a shapeshifter. You can become anything you want. You are You're a shapeshifter. You can become anything you want.
What if everything that surrounds us, everything that we perceive as reality, was a perpetual daydream? What if we had the power within ourselves to activate our complete vision, to drone in the meanders of reality, to make our environment shift? Would you take the risk to discover your real self? Because we are all so magic, if only we knew.
Shapeshifters, we can become anything we want. We aren't our. We are shapeshifters. We can become anything we want. We aren't our. We are shapeshifters.